Vous écoutez, on lit pour vous.
Ce qu'un Oscar et un prix Turing disent de nous. Un texte de Daniel Jutras, paru le 25 mars 2026 dans la presse. Daniel Jutras est recteur de l'Université de Montréal. Mon grand-père, qui était ouvrier dans une imprimerie, se désolait souvent du fait que les Montréalais comme lui étaient nés pour un petit pain. J'ai bon espoir que mes petits-enfants ne comprendront plus le sens de cette métaphore boulangère et typiquement québécoise. La semaine dernière, trois Montréalais ont atteint les plus hauts sommets dans leur domaine. D'abord, les cinéastes Chris Levis et Maciek Świerbowski ont remporté l'Oscar du meilleur court-métrage d'animation. Puis, le professeur Gilles Brassard de l'Université de Montréal a été honoré du prix A.M. Turing aux côtés du physicien américain Charles H. Bennett. Souvent considéré comme le Nobel de l'informatique, ce prix marque un moment fort. Il s'agit du deuxième prix Turing remis à un professeur de l'Université de Montréal après Joshua Bengio en 2018. Sur la scène des Oscars, les créateurs de La jeune fille qui pleurait des pères l'ont tenu à remercier Montréal, rappelant que la vitalité de sa communauté artistique rend possible la création d'œuvres de calibre mondial. On pourrait en dire autant de notre communauté scientifique, dont les découvertes sont aujourd'hui célébrées à l'échelle internationale. Il y a là de quoi relativiser le sentiment souvent répandu sur l'état de la métropole. Montréal ne se résume pas à ses nids de poules. C'est aussi un terreau fertile pour les idées les plus audacieuses. Porte d'entrée singulière en Amérique du Nord, la ville est un laboratoire d'identité en constante redéfinition. Cette diversité s'épanouit dans des milieux moins cloisonnés qu'ailleurs, favorisant les rencontres improbables et ouvrant un champ de possibilités exceptionnel. La présence de grandes universités y assure une source continue de talents et d'énergie créatrice. Un dynamisme que viennent consolider plusieurs fleurons économiques et culturels, en plus des quelques 70 organisations internationales comme l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, OACI, qui ont choisi de s'installer dans la métropole. Montréal possède les atouts nécessaires pour tirer son épingle du jeu au XXIe siècle. Reconnaître nos réussites. Nos récents succès invitent également à nuancer le discours souvent sombre entourant notre système d'éducation. Les défis sont réels, mais il importe aussi de reconnaître nos réussites collectives. 60 ans après le rapport Parent, qui a ouvert l'accès aux collèges et aux universités à toutes celles et tous ceux qui avaient le talent et le désir d'apprendre, notre système démontre qu'il peut mener jusqu'au Nobel. Il ne faut pas sous-estimer la puissance inspirante de diplômés oscarisés dans un département de cinéma ou d'un prix Turing en informatique. Ces réussites montrent aux générations montantes que l'excellence mondiale n'est pas un rêve lointain, mais une voie accessible. Dans ces pages, le comédien James Heidman, narrateur du court-métrage primé, soulignait le caractère unique du modèle de financement de l'Office national du film en notant que peu d'organisations accepteraient de soutenir deux artistes pendant 5 ans pour créer un film de 17 minutes. Ce constat vaut tout autant pour la recherche scientifique. Pour qu'un chercheur comme Gilles Brassard atteigne les plus hautes distinctions, aussi géniales soit-il, il faut un soutien constant, inscrit dans la durée. C'est cette persévérance qui permet de bâtir une réputation internationale et de renforcer notre capacité d'agir sur le monde. Au-delà de la fierté qu'inspire un Oscar ou un prix Turing, ces succès nous rappellent qu'ils ne doivent rien au hasard. Ils sont le fruit d'un écosystème qui s'est patiemment construit ici, à Montréal, ville plurielle, doublement insulaire par sa géographie et par sa francophonie. Un écosystème qui doit absolument être préservé pour que Montréal soit toujours grand comme un désordre universel, comme disait Gaston Miron. C'est dans ce terreau à échelle humaine toujours un peu chaotique que poussent les découvertes comme la cryptographie quantique de Gilles Brassard, ou des œuvres inimitables comme celles de Levis et Świerbowski. C'était « Ce qu'un Oscar et un prix Turing disent de nous », un texte de Daniel Jutras paru le 25 mars 2026 dans la presse.
À cause d'un climat universitaire étouffant, des professeurs américains s'exilent en Europe. Un texte de Romain Chauvet paru le 11 février 2026 dans Le Devoir. Face aux attaques répétées du gouvernement Trump contre le monde universitaire, des professeurs états-uniens cherchent un avenir meilleur outre-Atlantique. Mark Bray peine encore à se remettre des derniers mois. Aujourd'hui réfugié en Espagne avec sa famille, ce professeur d'histoire américain est devenu, bien malgré lui, celui qu'on appelle désormais le premier exilé politique de l'Amérique de Trump. Auteur d'un ouvrage à succès sur le mouvement Antifa, Antifa the Anti-Fascist Handbook, publié en 2017, il est rapidement devenu la cible de menaces de mort lorsque le président américain a signé un décret désignant le mouvement Antifa comme organisation terroriste intérieure, peu de temps après l'assassinat de Charlie Kirk en septembre 2025. Tout s'est très vite accéléré. Des influenceurs d'extrême droite m'ont traité de terroriste sur X. Une pétition de Turning Point USA, l'organisation politique créée par Kirk, a été lancée pour me faire virer du campus. Fox News a écrit un article sur moi et on a ensuite publié mon adresse et des informations sur ma famille sur X, raconte au Devoir Mark Bray, assis dans un café de Madrid où il vit désormais avec sa femme et ses deux enfants. Lorsque mon adresse a été dévoilée, j'ai tout de suite compris que nous ne pouvions plus rester chez nous. Il y a tellement d'armes à feu aux États-Unis, on ne sait pas ce qui peut arriver, explique le professeur spécialisé en histoire européenne contemporaine, en particulier celle de l'Espagne. C'est une des raisons qui l'ont poussé à choisir ce pays. Parlant couramment l'espagnol et possédant un passeport européen, le départ des États-Unis semblait plutôt simple jusqu'à ce qu'il arrive à l'aéroport. Nous n'avons pas pu embarquer dans l'avion, nos billets avaient été tout simplement annulés, se remémore Mark Bray, qui peine encore à savoir ce qui s'est réellement passé. C'est arrivé le jour même où Trump rencontrait deux influenceurs d'extrême droite qui m'ont attaqué en ligne. Je pense qu'il y avait des motivations politiques derrière, mais je ne suis sûr de rien. Il a finalement été en mesure de partir le lendemain pour l'Espagne. Il enseigne désormais temporairement, à distance, pour une université américaine. À la recherche d'une plus grande liberté. Depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, la pression sur les universités américaines ne s'essouffle pas, bien au contraire. Licenciements massifs, coupes budgétaires, fermeture de bases de données, menaces et intimidations ou encore censure de certains termes tels « changement climatique » ou « femme » sont autant de raisons qui poussent des professeurs états-uniens à aller chercher un meilleur avenir en Europe. La situation devenait de plus en plus étouffante, confie au Devoir Michael, nom d'emprunt, professeur d'histoire et de droit qui s'apprête à quitter son pays d'origine pour le vieux continent. Il ne souhaite pas dévoiler son identité, car il négocie les tout derniers détails de son nouveau contrat avec une université française. J'ai toujours eu une attirance pour enseigner en Europe, mais c'est vrai que la guerre de Trump, c'est vraiment une guerre pour moi, contre la liberté de penser et la liberté universitaire a fini par me convaincre de partir, explique-t-il au téléphone dans un français impeccable. Dernier exemple en date qui révèle, selon lui, le climat ambiant aux États-Unis. La demande de l'université A&M du Texas à un de ses professeurs de supprimer des parties de son cours qui abordaient des idées de Platon sur l'amour et le genre, comme l'a révélé le New York Times au début de février 2026. L'université s'est défendue, assurant qu'elle avait pris une mesure en 2025 qui indiquait que les cours ne doivent pas prôner des idéologies de race ou de genre ou des sujets liés à l'orientation sexuelle ou à l'identité de genre. Pour Michael, qui prépare déjà son déménagement, la situation ne montre aucun signe d'amélioration. Pire, elle pourrait encore plus s'aggraver en cas de victoire du Parti républicain aux élections de mi-mandat en novembre 2026. C'est de la folie. C'est de pire en pire. Comment se fait-il qu'un professeur de philosophie ne puisse plus enseigner Platon? On marche vraiment sur la tête. Il se dit aussi déçu de la réponse des universités américaines, insuffisante selon lui, et affirme que de nombreux collègues sont en train de se renseigner sur les démarches à suivre pour enseigner outre-Atlantique. La fuite des cerveaux. Face au climat universitaire pesant aux États-Unis, plusieurs universités européennes tentent d'attirer des professeurs qualifiés en leur promettant une grande liberté, mais aussi, parfois pour répondre à une pénurie de professeurs qualifiés. En France, l'Université d'Aix-Marseille a été l'une des premières à lancer un programme en ce sens. Baptisé « Safe Place for Science », il a pour but d'accueillir une trentaine de scientifiques pendant 3 ans. Ça a été une déferlante de candidatures très rapidement, explique le président de l'établissement, Éric Berton. Il affirme en avoir reçu près de 300 en 3 semaines, et autant après la fermeture du programme. L'appel était lancé à toutes les nationalités. Mais ce sont majoritairement des Américains qui ont répondu à ce programme auquel l'établissement consacre 17 millions d'euros, environ 27 millions de dollars canadiens. Les profils types sont des Américains, âgés d'à peu près 50 ans, qui ont déjà gagné de l'argent aux États-Unis et qui se trouvent empêchés de faire leur travail par le gouvernement Trump, précise M. Berton, qui dit avoir échangé avec tous les candidats par messagerie cryptée, signe de l'anxiété ambiante. Moins de 10 Américains sont pour l'instant arrivés dans son établissement. Parmi eux, des professeurs en sciences humaines et sociales qui travaillent sur des études de genre et sur l'histoire, ou encore des chercheurs sur les changements climatiques en biologie et en épidémiologie. Éric Berton assure que les écarts de rémunération avec les universités américaines n'ont pas été un problème. Bien sûr, ils ont négocié leur salaire, mais on les paye comme des professeurs français parce qu'on ne voulait pas non plus introduire une inégalité dans notre corps professoral. Ils ne viennent pas pour l'argent. Ils viennent chercher 3 ans d'asile scientifique, explique-t-il. Il ajoute que l'accès à un système public de sécurité sociale s'avère un atout majeur. Mark Bray espère, lui, que la tension retombera et qu'il pourra retourner chez lui en toute sécurité d'ici l'été prochain. Mais rien n'est moins sûr avec les derniers événements. À mesure que son soutien décline, Trump va s'immiscer dans les conflits à l'étranger pour justifier la répression des voix critiques, inciter à des manifestations, voire les réprimer. Je crains que tout cela ne lui fournisse un prétexte pour devenir plus ouvertement autoritaire, déclare le spécialiste. Si la situation continue de s'aggraver, il faudra que je cherche un nouvel emploi. Peut-être ici. C'est possible, mais j'espère ne pas en arriver là. C'était, à cause d'un climat universitaire étouffant, des professeurs américains s'exilent en Europe, un texte de Romain Chauvet, paru le 11 février 2026 dans Le Devoir.
Dentiste pour rester loin du médecin. Un texte de Mathieu Perrault, paru le 8 mars 2026 dans La Presse. La bouche est le maillon faible du corps humain, a expliqué Alp Dogan Kantarsi de l'Université du Minnesota lors du congrès annuel de l'Association américaine pour l'avancement de la science, AAAS, à Phoenix, en Arizona, en février. C'est l'une des principales portes d'entrée pour les bactéries. Elles ont plusieurs voies d'accès à partir de la bouche. Pour cette raison, les infections des gencives, aussi appelées parodontites, et les caries graves avec abcès ont été liées à une cinquantaine de maladies ailleurs dans le corps. Dans certains cas, les parodontites augmentent le risque d'autres maladies. Dans d'autres, il se peut que la parodontite soit une conséquence de la maladie, dit le dentiste de Minneapolis. Les bactéries d'une bouche en santé peuvent être bénéfiques pour le corps humain, mais quand il y a des infections graves aux gencives ou des caries allant jusqu'à l'os, les bactéries peuvent migrer dans les organes internes par l'entremise du système gastro-intestinal, par le sang ou carrément en progressant jusqu'au cerveau, dit le docteur Cantarsi. Et l'inflammation dans la bouche affecte le reste du système immunitaire. Le risque de parodontite augmentant avec l'âge, certains patients gagneraient à avoir un nettoyage chez le dentiste tous les 2 mois, selon le docteur Cantarsi. Est-ce que les gens qui ont eu une petite greffe de gencive ont appris leur leçon et gardent de bonnes gencives sont à risque? Non, il faut une parodontite qui dure ou qui revient souvent, dit-il. Une carie avec abcès pourrait aussi augmenter le risque de maladie. Plusieurs maladies. L'un des mécanismes identifiés par le docteur Cantarsi concerne l'Alzheimer. Les bactéries pathogènes des parodontites peuvent se rendre au cerveau, où le système immunitaire les reconnaît et les attaque. Cela distrait le système immunitaire du cerveau d'une autre tâche, l'élimination des plaques amyloïdes, dont l'accumulation finit par causer cette démence. Un phénomène similaire pourrait être en cause dans la maladie de Parkinson, très souvent liée à des parodontites. Dans les cardiopathies, il est possible que les bactéries pathogènes des parodontites stimulent la formation de plaques dans les vaisseaux sanguins, ou alors l'inflammation de ces vaisseaux, qui deviennent alors bouchés. Le diabète a été la première maladie liée aux parodontites il y a une 20aine d'années, selon le docteur Cantarsi. C'est l'un des 6 symptômes les plus importants du diabète, dit-il. Et des études ont montré que si on traite les parodontites, le diabète devient plus facile à prendre en charge. Vaccins et probiotiques. Un vaccin est actuellement testé en Australie pour prévenir les infections par une bactérie souvent présente dans les parodontites qui a aussi été liée à d'autres maladies, dit le docteur Cantarsi. Le défi de l'approche vaccinale est que des bactéries très différentes sont présentes à différentes profondeurs dans les gencives affectées, en fonction du degré d'oxygénation de la zone. Il y a moins d'oxygène dans le fond des poches dans les gencives touchées par la parodontite, dit le docteur Cantarsi. Une autre approche serait de favoriser la présence de bactéries salutaires pour la bouche et le corps humain par la consommation de probiotiques. Arthrite. L'une des maladies causées par la parodontite est l'arthrite rhumatoïde. L'arthrite rhumatoïde survient quand le système immunitaire attaque certaines protéines des articulations, explique Felipe Andrade, un rhumatologue de l'Université Johns Hopkins, qui avait aussi une présentation à la séance sur le microbiote dentaire de l'AAAS. Les protéines attaquées ont en commun d'être capables de citrullination, un processus moléculaire. Nous voyons que dans la parodontite, les bactéries buccales pathogéniques sont aussi capables de citrullination. Le processus moléculaire de la citrullination est important dans la réaction auto-immune de l'arthrite rhumatoïde. Le Dr Andrade estime que cette découverte pourrait expliquer pourquoi certains patients sont arthritiques malgré l'absence d'une infection dans l'articulation touchée. Cette maladie est considérée comme auto-immune dans la mesure où le système immunitaire, stimulé par une infection, réagit trop fort et attaque les cellules humaines saines. Selon le modèle proposé par le rhumatologue de Baltimore, des protéines buccales pathogènes, capables de citrullination, envahissent la bouche lors d'une parodontite, ce qui pousse le système immunitaire à les attaquer. Le système immunitaire devient alors très sensible aux protéines capables de citrullination et attaque des protéines semblables dans certaines articulations. Selon le Dr Andrade, les parodontites seraient la cause d'entre 30 et 40 % des cas d'arthrite auto-immune. Il veut maintenant comprendre pourquoi les parodontites ne mènent pas toujours à l'arthrite, ce qui est beaucoup moins fréquent. Intestin. D'autres maladies, souvent immunes, les inflammations de l'intestin, pourraient aussi être liées à des bactéries pathogènes des parodontites. Ces bactéries buccales pourraient même être transmises de la mère à son enfant, selon un microbiologiste spécialiste de gastro-entérologie, Nobuhiko Kamada, de l'Université du Michigan, qui présentait ses travaux à Phoenix. Pour le moment, nous n'avons pas établi de lien causal chez l'humain entre le microbiote buccal et les inflammations de l'intestin ou le cancer colorectal. Mais il y a une association, explique M. Kamada. Un lien causal a été trouvé chez la souris, notamment dans le cas de la transmission mère-enfant. Sur la base de ses travaux menés sur des souris, M. Kamada a identifié deux mécanismes probables pouvant lier la santé buccale et intestinale. Soit les patients atteints d'inflammation de l'intestin sont plus vulnérables aux bactéries pathogènes des parodontites qui arrivent dans l'intestin, soit ces bactéries buccales poussent le système immunitaire à produire des molécules inflammatoires qui se retrouvent dans l'intestin. Il est trop tôt pour estimer la proportion maximale des cancers et inflammations chroniques de l'intestin qui sont dus aux parodontites. Mais comme ces problèmes buccaux sont très fréquents, il vaut la peine de bien étudier la question, dit-il. Et on pourrait envisager un dépistage des cancers ou inflammations intestinaux chez les patients ayant des parodontites ou certaines bactéries buccales. Il est plus facile d'accéder pour le dépistage à la bouche qu'à l'intestin. En savoir plus? Source, Université du Minnesota. 700. Nombre de types de bactéries qui vivent dans la bouche. Deux fois. Augmentation du risque de démence chez les patients atteints de parodontite chronique. Source, Statistique Canada. 51%. Proportion des adultes canadiens ayant une parodontite chronique. C'était chez le dentiste pour rester loin du médecin. Un texte de Mathieu Perrault, paru le 8 mars 2026 dans La Presse.
Comment identifier les produits qui ont subi une décaliflation? un texte de Véronique Morin, publié le 13 janvier 2026 dans le Journal de Québec. Votre aliment préféré ne goûte plus aussi bon ? Il a peut-être été décaliflationné par son fabricant. C'est-à-dire que sa recette originale a été modifiée pour diminuer son coût de production. Comment faire pour savoir si la recette des aliments transformés que vous avez l'habitude d'acheter en épicerie a été altérée ou non ? Aucun pays dans le monde ne réglemente à ce sujet, fait remarquer le professeur invité à l'Université McGill, Sylvain Charlebois, joint par téléphone par l'agence QMI mardi. C'est beaucoup trop compliqué. Et pour Santé Canada, l'important, c'est qu'il n'y ait pas d'allergène d'ajouté, ajoute-t-il. La seule façon de savoir serait donc de lire l'étiquette et de connaître par cœur les ingrédients de la recette originale d'un produit. Ça prend une bonne mémoire, ironise-t-il. Ce phénomène, qui s'apparente à la réduflation, le fait de diminuer les portions tout en maintenant les prix, ne date pas d'hier. Ça fait 30-40 ans que les compagnies agroalimentaires ont recours à ce genre de stratégie pour réduire leurs coûts, souligne le professeur Charlebois. À l'émission À vos affaires, lundi, il rapportait le cas des tranches de fromage Singles de la marque américaine Kraft comme un exemple de décaliflation. Les tranches de fromage ne goûtent plus comme avant parce que le gras a été remplacé par de l'eau, ce qui en change non seulement le goût, mais aussi la texture. Les consommateurs s'en sont rendus compte et c'est grâce aux réseaux sociaux que les gens ont appris que le fameux fromage avait changé de recette, raconte-t-il. De son côté, l'organisme Équiterre dénonce ce phénomène sur une page web explicative pour éveiller les consommateurs. La décaliflation, skimpflation, est une pratique commerciale qui consiste à réduire la qualité et la disponibilité des services et des produits offerts sans en réduire le prix, peut-on lire. On y déplore que ces changements se fassent souvent à l'insu des consommateurs et des consommatrices. Selon Sylvain Charlebois, les gens ne sont pas dupes. Les consommateurs s'en aperçoivent et dès qu'ils vont sur les réseaux sociaux, les compagnies réagissent, estime-t-il. C'est la pire chose pour une compagnie quand les gens s'expriment sur les réseaux sociaux et les interpellent directement. D'ailleurs, c'est ce qu'il conseille de faire à tous ceux qui remarquent un changement de goût qui pourrait s'apparenter à de la décaliflation de leurs produits alimentaires. Allez sur les réseaux sociaux pour le dénoncer. C'est de loin la façon la plus efficace de faire bouger les compagnies agroalimentaires pour revenir à leurs anciennes recettes, conclut-il. C'était « Comment identifier les produits qui ont subi une décaliflation ?» un texte de Véronique Morin, publié le 13 janvier 2026 dans le Journal de Québec.